France Culture.
Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Un vrai mythe entoure les cours de musique et de composition dispensés par Nadia Boulanger. Elle est vue par beaucoup comme la plus grande professeure de composition du XXe siècle, ayant enseigné à des milliers d'élèves dont certains sont devenus de grands compositeurs et instrumentalistes. Mais contrairement à la mystique qui peut entourer une compositrice ou un compositeur, le cours n'est pas quelque chose de partageable. On peut aller à un concert, écouter un enregistrement d'une composition, mais on ne peut pas faire l'expérience d'un cours de Nadia Boulanger. Ce cinquième entretien avec la professeure, mais aussi compositrice ou encore chef de chœur, au micro de Bruno Mont-Saint-Jean, diffusé pour la première fois le 4 août 1978, permet de s'approcher de cette expérience, d'être l'élève en quelque sorte de Nadia Boulanger. Entre tirades sur bac, les suites de notes et les harmonies, ce sont de véritables extraits de ses cours qui parsèment cet entretien, enregistré en 1976. Pourtant âgé de 89 ans, on retrouve la vitalité et la joie qui a animé tout du long de sa vie une carrière pleine d'un talent fou, d'une immense pédagogie et surtout d'une passion dévorante.
Entretien avec Nadia Boulanger, une émission de Bruno Mont-Saint-Jean.
À celle qu'entre deux guerres Paul Valéry m'adressait un jour avec ces simples mots, elle est la musique en personne. Saint John Perse.
Je suis insatiable. Je suis morte de fatigue, je viens de donner 8 ans ou 9 heures de leçons de suite. Mon premier geste, ça agace tout le monde dans la maison, c'est d'ouvrir la radio. Et j'écoute. Je n'apprécie rien avec mon corps. Et je trouve que c'est merveilleux, j'entends. Le silence. Le mouvement, l'arrêt, le silence. Et alors ça, centré de ce chromatique. Moi, je peux me jouer ça toute la journée. Je me dis, je n'avais pas encore entendu. Et puis je lis Macbeth ou je lis Shakespeare, enfin Hamlet, et je me dis, je ne l'avais pas encore entendu.
Thank you.
l'autre jour à la classe, très amusant. Nous jouons ce sujet. Et je dis à un ou deux élèves, voulez-vous aller jouer sur le clavicorde? Et voulez-vous aller jouer sur l'orgue? Comme ils n'ont pas l'habitude de jouer un legato comme l'archer à la corde, mais qui ne quitte pas, sur le clavicorde, on a entendu rien. C'est pas que c'était pas beau, rien. L'orgue, c'était pas en mesure. Parce que certains doigts étaient un peu plus faibles que les autres, étaient un peu plus courts.
Tout le monde dit que lorsque vous avez commencé
vous
à enseigner...
On dit beaucoup de choses, dont peu sont vraies.
Mais enfin, la...
Enfin, allons-nous dans la légende. J'ai un élève qui est persuadé que je commence, finis mes sons, de minuit à une heure, et que je recommence à 4 heures. Or, j'ai jamais donné une leçon à 4 heures. J'ai essayé de lui expliquer. Il m'a dit, well, I know better. Alors, il sait mieux que moi. Eh bien, il est vrai qu'en hiver, j'ai donné des sons à minuit, parce qu'on ne pouvait pas avoir la chapelle de Harvard à une autre. Alors, il est vrai qu'à un moment donné, j'ai donné. Une fois, il y avait un monsieur qui voulait avoir une leçon, moi, je n'avais pas le temps. Alors, je dis, écoutez, dis-lui si, il dit, tiens, tellement que je peux le voir ou à minuit ou à 7 heures du matin. Mademoiselle Boulanger me prend pour une amateur, se moque de moi. Il n'est heureusement pas venu. Mais moi, je faisais un grand sacrifice. Mais il a cru que je me payais sa tête.
Donc, ce n'est pas tout à fait une légende, le fait que 4 heures du matin est une exagération d'une légende.
Mais c'est une déformation totale.
Pas totale, parce que ça veut dire qu'effectivement, vous avez pu donner des leçons à 7 heures du matin
mais
et
non,
terminer
mais
à 1 heure.
7 heures du matin, 8 heures, rarement à 7. 8 heures assez souvent. Mais de la tomber à 4 heures, c'est la légende.
Oui, mais...
Et que je suis un génie méconnu, autre légende. Folle, parce que la musique que j'ai écrite est une musique pas même mal, inutile. Ben ça, c'est très offensant. On n'a pas envie d'écrire de la musique inutile.
Ça, c'est vous qui l'avez décidé.
Oh, tout le monde.
Vous l'avez fait entendre
Jamais, depuis que j'avais 20 ans.
Et pourquoi
mais on sait que c'est rien.
Non, mais est-ce que vous croyez que vous avez le droit vous-même?
Mais je n'ai rien fait. Je n'ai pas fait un grand incendie dans le quartier pour brûler tout ce que j'avais écrit. Ce que j'avais écrit proprement, j'ai dû le garder. Par bonheur, je n'ai jamais regardé. Si je le regardais, ça me donnerait une leçon d'humilité, une leçon de raison. Parce que je me dirais, voilà, au point de vue technique, c'est bien, c'est propre. On a le droit de le jouer. C'est pas une offensant, c'est pire. Ça pourrait être offensant de vulgarité. Je n'ai pas besoin de vous dire que je n'aime pas entendre Pagliacci. Je n'aime pas. Mais je reconnais que l'homme qui a écrit ça l'a senti. C'est comme ça qu'il sentait. Alors moi, j'aime mieux ne pas voir comment il sent, parce que ça ne convient pas à mes goûts. Alors vous vous souvenez du poème d'Apollinaire? Ce ne sont plus les artistes, ce sont les gens du cinéma. Si nous étions du cinéma, nous dirions ciné. Si nous étions, je ne sais plus quoi, nous dirions cinéma. Mais si nous étions de vieux professeurs de province, nous dirions cinématographe. Aussi, mon Dieu, faut-il avoir du goût. La manière dont Poulenc a mis ça en musique, ayant compris les implications, dit une chose d'une gravité extraordinaire, une petite pichenette, et c'est tout. Et il traite un problème, Schopenhauer prendrait 800 pages pour le traiter. Et ce serait superbe, mais sous un autre rythme.
Oui, et lorsque Payas s'est écrit, vous pensez que c'est écrit selon les...
Mais il a écrit ce qu'il pouvait écrire. J'ai dit ce qu'il pouvait. Alors, je suppose que vous entendez tout ce que ça comporte de restrictions.
Bon, mais alors, en ce qui concerne votre œuvre à vous...
C'est beaucoup mieux. Et c'est beaucoup mieux, beaucoup plus rien.
En quoi beaucoup plus rien?
Parce qu'il n'y a rien. Il n'y a pas de personnalité. Et vous décrivez qu'est-ce que c'est que la personnalité. Eh bien, vous savez, je vous fais un cadeau. Si vous me le rendez clair, mais je vous promets, je vous donne un beau cadeau, pas une Rolls. Mais un vrai cadeau, que je joue une mélodie de Forêt après un rêve. Et puis je sais que c'est une forêt, et ça reste. Ça reste. C'est pour ça que je vous propose un cadeau royal, ne risquant rien, parce que vous ne me donnerez pas une définition du mot personnalisé. Vous ne me donnerez pas, parce que soldo, dosi, sosido, parce que soldo, moi je trouve ça partout. Je ne connais pas une œuvre où on ne fasse pas. Pas possible d'en trouver une. Et il va se passer quelque chose dès que je vais entendre. Et si je fais sol, do, do, si, sol, si, do, do, mi, mi, fa, fa, sol, je ne sais pas, il y a quelque chose que je connais là-dedans.
Thank you.
le matin à la maison. Je dis, qu'est-ce que je joue aujourd'hui? Je trouvais ça assez amusant. Parce que vous savez, dans les classes d'orgue, on improvise.
Oui.
Alors je dis, ben, si je trouve rien, j'improviserai. Ça m'amusait d'arriver à l'orgue et ne pas savoir ce que j'allais jouer. Je trouvais ça drôle. J'ai commencé mon choral sans l'ombre d'une difficulté.
Ah, c'est revenu à l'instant même où vous étiez à l'orgue?
J'ai joué. J'ai plus pensé à rien, j'ai improvisé ma fugue, j'ai improvisé mon plein chant, j'ai improvisé mon improvisation libre, puis j'ai joué mon choral. Enfin, aujourd'hui, je l'ai lu beaucoup depuis, il faut dire.
Le temps qui passe n'a jamais amoindri votre mémoire musicale.
Je ne crois pas. Je ne sais pas si j'apprendrai de nouvelles choses aussi vite, parce que je les voyais.
Oui.
Non seulement je les entendais, mais je les voyais. Tandis que depuis deux ans et demi même, c'était déjà difficile, mais depuis deux ans et demi, c'est rien.
La visualisation vous semble importante pour la mémoire musicale?
Ah ben, joue un rôle, vous les voyez, les notes.
Est-ce que ce n'est pas d'abord la conscience que vous en avez du rapport d'une note avec la suivante, avec la superposée?
Je ne sais pas. Et dès que vous entrez dans la musique elle-même, ben, je ne sais pas. Il y a une leçon d'harmonie, mi ré fa. Me paraît tellement beau. Si je lisais ça dans un volume de madrigaux, je le mettrais tout de suite à l'étude pour chanter. Il y a 8 mesures, alors c'est fini tout de suite. Mais il y a donc 16 accords parfaits. À vrai dire, 14 accords parfaits. Ben, je ne sais pas.
Lorsque vous citez le choral de Bach,
oui,
il se pourrait très bien que vous ne l'ayez jamais entendu depuis 20 ans, par exemple. C'était pas le...
Je pourrais, je ne sais pas, aujourd'hui, peut-être, demain, peut-être, non, je ne sais pas.
Non, mais vous m'avez dit quand même qu'avec le clavier bien tempéré...
Ça, je l'ai joué toute ma vie.
Toute votre vie, mais vous l'avez appris il y a très longtemps.
Ah, mais j'avais 10 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, à 12 ans, ça je sais, mon père est mort quand j'avais 12 ans. Alors ça, c'est un critère, une date que je ne peux pas oublier. Eh bien là, je savais, ils étaient contents, parce que lui-même... Je crois, le savait aussi, par cœur.
Et à 12 ans, vous le saviez par cœur?
J'étais obligé.
Pourquoi obligé?
Parce qu'on m'obligeait chaque semaine à jouer un prélude et une fugue par cœur. Cette année, le deuxième volume, j'ai un élève américain qui a eu beaucoup de peine pour le faire. Mais j'aurais donné un examen, vraiment. Par exemple, j'ai donné ça. Où? Il faut rétablir le sujet, la réponse et le contre-sujet. Ben, ils auront toute leur vie, dans leurs mains, dans leur esprit, les fugues.
Un sujet qui est développé dans l'exposition, il y a plusieurs voix qui viennent une après l'autre, qui font la réponse du sujet, puis avec le contre-sujet, enfin, avec une strette où on met le thème combiné dans toutes les voix. Enfin, c'est beaucoup de choses, une fugue.
Très bien, mais tout ça... C'est beaucoup de détails et pas d'idées. Quand vous dites une fugue, je joue une fugue, j'écris une fugue, ça veut dire quoi pour vous? What does it mean for you to say I write, I listen, I play a fugue? Pour parler d'un sujet, il faut dire en quoi cette forme ou cette manière de traiter les sons correspond et à une convention et à une émotion. Alors je voudrais déjà savoir dans votre esprit qu'est-ce que vous désirez obtenir en énonçant le sujet.
Le sujet peut être différent. Par exemple, si le sujet est assez... lent et tout à fait calme, le contre-sujet peut être plus mouvementé ou avec
oui, mais attends, tu entends déjà dans un trop petit détail. Dans les conventions de la fugue, il y a une exposition dans la fugue. Une voix est entrée à énoncer un thème qui établit un ton. Ça établit le ton de Do majeur. Et après ça, on ajoute cette entrée du sujet et suivie d'une autre personne qui entre et qui fait entendre la réponse. Qu'est-ce que c'est que la réponse? C'est le même thème. Supposons que le sujet soit ça. La réponse serait à la dominante, c'est-à-dire au cinquième degré de la gamme. Alors je ferai. Sujet, réponse. Je le prends extrêmement simple. Il y a malheureusement des lois très rigides, très difficiles, auxquelles ce ne sont pas vous autres, pauvres étudiants tyrannisés, qui devez répondre, mais Jean-Sébastien Bach a comme sujet ça, et il répond. Ou bien il a un sujet, voilà le sujet. Réponse. Le commencement est répondu par ça. Alors ça fait deux sortes de réponses. L'une qui s'appelle réponse quoi ?
Réelle.
L'autre qui s'appelle ?
Tonale.
Réponse tonale. Nous sommes bien d'accord. J'accepte les règles du jeu. J'accepte qu'on dit un mot au singulier d'une certaine manière. On dit un bel orgue, de belles orgues au féminin. C'est une règle. Et tous les écrivains se sont pliés. Tout ce qui appartient à la tonique, supposons je suis en Do majeur, si je fais, je réponds la même chose en sol. Mais si je fais, eh bien je ne répondrai pas. Je répondrai par une des lois qui fait que tout ce qui appartient à la tonique, c'est-à-dire au chiffre 1, soit reproduit en relation avec le chiffre 5. Je répondrai. Mais si je fais, eh bien je ne répondrai pas, pardon. Je répondrai. Alors il y a une fugue de Bach. Et bien, à cet arpège de Do, il répond. Alors, ça donne des choses extrêmement intéressantes et curieuses, parce qu'il faut maintenant fabriquer tout un morceau qui doit, en même temps, créer l'impression qu'on a fait une cadence dans un certain ton, et puis que tout s'est déroulé avec une polyphonie où chacun garde sa liberté tout en se soumettant à l'ensemble. Comme je voudrais être sûr que vous avez compris, voulez-vous me chanter sans musique, sans musique? Tout ça est de mémoire. Eh bien, et toi?
Quand est-ce que j'entre?
Mais quand tu veux.
Avant.
Ou tu auras raison, tu auras tort.
Avant, très bien, vous voulez que je fasse la réponse?
Mais c'est toi qui continues. C'est maintenant eux qui donnent le sujet. C'est toi qui continues.
Très bien, très
eux
bien.
Par cœur, toi par cœur.
Très bien.
Alors moi, je me dis, le second volume du Clavecin vient de s'opérer. Ils le connaissent. Tout ce que je peux faire pour vous, c'est vous amener par un ordre établi, par une rigueur imposée, par la rigueur, arriver à retrouver l'essentiel du langage. Bien, sujet en si mineur. À toi.
Bruno...
Est-ce que ma coque, elle est ici? Oui, mais alors vous voulez aller à l'autre piano. Ça me suffit. Je n'espère pas que vous allez me jouer les deux volumes. J'espère très fermement et dans mon esprit, c'est là où je vous jugerai, que dans 2 ans, vous pourrez jouer tout le Cassin bien tempéré par cœur. Alors, c'est une question de ne pas lâcher un seul jour la mineure. Deux. Bon, mais ça me suffit. Je me déclare enchanté. Fugue en mi mineur.
Ils les ont appris par cœur toutes.
Eh oui, mais toutes. Tu sais, une par semaine, c'est pas grand-chose. L'un qui n'est pas tellement doué peut chanter une partie, une des voix, et jouer l'autre. Sol, la, si, do, ré, do, si, mi, la, ré, mi, ré, do, si, sol, la, si, do, si, do. Ré, mi, fa, sol, si, do, la, ré, do, si, la, sol, sol, fa, mi, fa, sol, la, si, do, do, si, la, si, do, ré, mi, fa, sol, la, ré, sol, la, sol, fa, mi, et je ne fais pas même attention. Alors hier, ils ont souffert, il faut dire. Jouer avec la main droite, le ténor et le contralto. Avec la main gauche, le soprano. Chanter la basse. Do, sol, fa, fa, mi, sol, sol, do, la, fa, ré, sol, do. Façon, ça, ils écoutent un accord, un accord, un accord.
Mais ce sont des exigences draconiennes.
Draconiennes, sauvages. Mais au bout d'un certain temps, ils entendent. Et ils n'entendent pas encore assez bien. C'est dur d'apprendre à entendre passer 8 ans. Jusqu'à 8 ans, vous imitez le son. Ce qui s'occupe de phonétique disent qu'un enfant jusqu'à 8 ans n'a pas d'accent dans une langue étrangère. Après 8 ans, il a toujours un accent. La même chose pour la musique. Alors le miracle de Roussel accédant à la musique à 25 ans, et ça sent.
Accédant professionnellement à la musique à 25 ans.
Oui, mais en fait, il faisait peu de musique. Eh bien, on sent bien qu'il y a des moments où il est gêné. On ne sent jamais Mozart ou Haydn gêné. On ne sent jamais Chopin gêné. On ne sent jamais Schubert gêné.
Thank you.
C'était la cinquième partie des entretiens avec Nadia Boulanger au micro de Bruno Mont-Saint-Jean, diffusée pour la première fois le 4 août 1978.